Alors, bonjour et content de t'accueillir, Pasteur Béjin. Content qu'on puisse se parler même avant le cours, qu'on puisse prier ensemble tout ça. Mais là, on va prier pour le cours. Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu que tu nous permets de faire ce cours sur l'histoire des baptistes. Mais Seigneur, ce qui nous intéresse, c'est pas simplement de savoir qu'est-ce qu'un tel ou une telle a fait, mais Seigneur, vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé à la lumière de ta parole, Seigneur Dieu, la Bible, pour en apprendre des leçons, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est bien de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour en apprendre des leçons, parce que Seigneur, c'est la même nature humaine, c'est les mêmes défis qu'on a, les mêmes problèmes et c'est les mêmes solutions dans ta parole, Seigneur Dieu. Et donc, Seigneur, je te prie de nous donner un grand discernement et de bien être sobre et vaquer à nos responsabilités propres dans notre temps, en apprenant aussi ce qui est bien et ce qui est de moins bien, Seigneur, aussi dans ce qui s'est passé dans le passé. Donc, Seigneur Dieu, donne grâce. Seigneur, on te prie pour que chacun, et qu'on te prie, s'il y en a qui écoutent cette vidéo, qui ne sont pas sauvés, que tu puisses toucher leur cœur aussi avec les vérités de ta parole sur l'Évangile, particulièrement, on te prie. Et pour les croyants, que tu puisses les aider à grandir, Seigneur Dieu, on te prie au nom de Jésus. Amen. Bon.
Amen.
Et qu'on va là, on va un peu plus loin que Ruben Saillant. Je suis pas encore sûr. Moi, je dis Saillant, mais Science, je viens d'entendre Science là dans certaines choses. Je ne sais
OK.
pas si c'était si c'est tout le monde. Peut-être assez. Je suis peut-être pas assez connecté avec les milieux directement comme ça. Mais enfin. Si je le dis d'une mauvaise façon, eh bien, peut-être vous pardonnerez à ce Québécois de souche. Non, non, non. Je ne suis pas Québécois de souche, mais j'ai été assez longtemps pour dire que si je fais des erreurs, je vais créditer le Québec. Non. Bon, ça
Vous
m'est avec ça, mais.
avez été greffé sur l'olivier.
C'est ça. Fait que bon, la prononciation officielle du nom Ruben Saillant, je ne sais pas, Saillant, mais bah pour ça, tout ça pour dire, on avait fini un peu avec le fait qu'il s'ouvrait à des choses et il n'enclenchait pas à la porte, il ne prenait pas position. Fait que malheureusement, justement, les semences de compromis ici et là, bah, ça fait son bout de chemin. Et les milieux fondamentalistes dans lesquels il était bien associé et il avait beaucoup de passion pour la parole de Dieu, eh bien, on va voir justement que dans sa suite, le fait que l'Église qu'il a commencée était la seule qui est sortie de l'Union baptiste, et dans la souche fondamentaliste, entre guillemets, sa fille, qu'on va voir justement, devient la première femme pasteur. La biographie de sa biographie s'est intitulée justement Femme, pasteur et fondamentaliste. À peu près, là je vais rajouter ça dans les notes plus formellement. Mais juste pour dire, c'est ça ce qui est le plus triste, c'est que Satan va se servir de ça pour atteindre ce qui à ce moment-là était une des églises les plus fortes. Et pour commencer à effriter, pour que
Pasteur,
la vérité s'effrite de plus en plus. Oui.
sans élaborer là-dessus, là, mais peut-être dans un prochain cours, vous savez, on entend souvent le terme fondamentaliste, mais ça serait bon de clarifier parce qu'on l'entend à toutes les sauces. Mais comme je vous dis, pas maintenant, mais
Oui. Oui,
dans
je
une
me rappelle
rencontre future.
de votre requête aussi, je pense, la semaine dernière, justement. Oui, on va tomber sur le sujet parce qu'on va arriver
Ouais.
après, bientôt, on va retourner un peu voir ce qui se passait aux États-Unis pendant ce
OK.
temps-ci, d'où venait cette influence. Et justement, c'est de là que vient le terme fondamentaliste. Fait qu'on va
OK.
voir d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là. Et malheureusement, pourquoi les gens commençaient à en faire des caricatures et qu'ils ne le
Ouais.
représentent plus correctement. Donc, moi, je ne vais pas mourir pour un terme, mais je vais mourir pour la position biblique qu'on doit
Ouais, c'est ça.
tenir. Donc c'est ça. Mais parfois, les termes, hein, ils sont caricaturisés. Les chrétiens étaient un terme qui commençait à être utilisé pour les disciples de Christ. Ce n'était pas un compliment à ce moment-là, hein, d'être appelé chrétien.
Ouais. Non, non, c'est ça.
Certainement, quand on comprend un fondamentaliste dans le bon sens du terme, bah, on comprend qu'il y en a qui vont le caricaturiser. Mais c'est bon, comme vous dites, qu'on sache d'où ça vient ce terme-là, qu'est-ce que ça voulait dire,
Ouais.
etc. Fait que je garde votre requête en tête.
Merci
Donc,
beaucoup.
oh, Arthur Blocher, donc c'est celui, on va revenir un peu dans la. Parce que là, on finissait avec la fin du ministère de Rubens Saillant. Mais Arthur Blocher, donc, on revient un peu en arrière, en 1895, il se fait former au Spurgeon's College. Donc lui-même, un peu bien fondé, quoique déjà avec Spurgeon, lui aussi, hein, son école va commencer à. Le sel va commencer à perdre sa saveur peu à peu aussi, hein, c'est la tendance. Il est donc Arthur Blocher, il est donc né en 1867, 1929. Il est formé là, pendant les années 95 à 98 en Angleterre. Et c'est là qu'il est gagné aux convictions baptistes, sous l'influence de l'école, bien sûr, l'école des baptistes, mais particulièrement avec Robert du Barry, qui vient aussi de France. Et je mentionne son nom parce qu'on va y revenir. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui était le dirigeant principal là, derrière le début de l'association. Les six, sept églises qui ont sorti formellement de l'Union Baptiste, là, qui formait avant ça l'association franco-suisse. Donc, Robert du Barry, on va y revenir, mais Robert du Barry, donc, il était un proche de Rubens Saillant. Et c'est lui, donc, qui influence. Arthur Blocher, vraiment avoir des convictions bibliques, baptistes, là. Arthur Blocher se marie à Madeleine Saillant et donc commence à œuvrer sous Rubens Saillant, dans l'église même donc, de Rubens Saillant, jusqu'en 1905. Et comme on a vu, en 1905, c'est justement le réveil du Pays de Galles qui fait que Rubens Saillant a désir commencer à faire un retourner au ministère d'évangélisation. Et l'élargir là à toutes sortes d'églises là protestantes etc. Donc c'est on avait vu Arthur Blocher là qui prend la relève à l'église baptiste de la rue Saint-Denis. En passant là j'ai juste mis quelques dates clés là pour suivre un peu le parcours. Ça a été commencé en 1888-89. C'était pas appelé église du Tabernacle au début. C'était juste l'église baptiste de la rue Saint-Denis. 1905, Arthur Blocher devient pasteur et de déménage au 61 rue Meslay. 1910, c'est là qu'on voit souvent l'adresse 48 rue de Lille. Cette adresse-là, ça fait longtemps là, que c'est une église baptiste. Elle a eu beaucoup. Philémon Vincent était pasteur. Fait que c'est vraiment un petit monde dans un sens parce que là, l'église qui était aux rues de Lille, et là, c'est Fat qui parle de cela. La petite église qui restait, en fin de compte, qui découlait là, de la division, entre guillemets, avec ceux qui ont suivi Philémon Vincent, a commencé une église sur la rue du Maine. Bah, cette église-là, elle était un peu petite pour la place. Donc, apparemment, que là, eux, ils ont commencé une église ailleurs. Et c'est l'église, là, maintenant, de Rubens Saillant, bah, sous Arthur Blocher, qui. Bah, c'est clairement sous Arthur Blocher, là, ça fait 5 ans qu'il est pasteur, déménage au 48 rue de Lille. Mais pas trop longtemps, parce que justement, en 1920, là, l'Église sort de l'Union Baptiste, et en sortant de l'Union Baptiste, là, vu que la rue de l'Église était sous la gestion de la mission américaine, bah, là, il ne restait plus là. Il se transplante au nord du Paris et ils commencent à construire leur propre lieu de culte, qu'ils appellent Tabernacle, achevé en 1928. Et justement, là, c'est en plein essor, ils viennent de finir leur bâtiment, que justement, Arthur Blocher décède assez soudainement. Mais avant cela, avant de parler de son décès, là, peut-être en guise de révision, parce qu'on l'a vu sous Philémon Vincent. C'est en 1920. Pourquoi en 1920? Il y avait eu une tentative 1990-93 d'Union Baptiste. L'effort a été ressuscité à travers les 2 prochaines décennies, les 3 prochaines décennies. Là, avec 1914-18, la guerre, Première Guerre mondiale, pas beaucoup d'œuvres ou d'avancement dans l'œuvre se fait. Là, suivant cela, maintenant, la mission américaine qui veut recommencer à donner beaucoup d'argent aux œuvres baptistes met la pression de s'unir. Et donc là, OK, pour avoir une école de formation, tout ça, ils cherchent à encourager les églises baptistes en France de s'unir. Et donc là, la convention de 1920, un nouvel effort d'union baptiste. Et l'association du Sud, comme on l'a vu, elle est plus conservatrice dans la doctrine, etc. Pas particulièrement ici, Arthur Blocher. Bon, il est à Paris, mais c'est quand même avec les églises Sud et en Suisse. Particulièrement lui, il a un grand souci de droiture et de s'assurer que tout avancement dans l'Union soit fait sur la base, ou particulièrement pour l'école biblique, soit fait sur la base de l'inhérence et l'autorité de la Bible. Bon, il ne trouve pas que l'unité du tout se fait à ce niveau-là. Bien sûr, il y a un problème fondamental, comme on a souligné. Il ne croit pas. Philémon Vincent ne croyait pas que la Bible était la parole de Dieu. On l'avait vu, là, tous ces faux enseignements assez subtils, mais quand même assez clairement, si on veut bien s'y prêter attention. Donc, ils sortent de l'Union. Il est le seul, l'année d'après, il y en a d'autres, mais c'était un petit peu comme plusieurs qui trouvaient que c'était un peu rapide, mais il est le seul. Donc, ils deviennent indépendants. Mais, comme on l'a souligné justement, et là, je fais juste le répéter, le problème de fond au sein des églises baptistes de l'époque n'était regrettablement pas reconnu, c'est-à-dire les faux enseignements et les faux évangiles qui étaient prêchés à des places, particulièrement dans les églises du Nord, c'était pas exposé. Même lui, on l'avait vu, on l'avait cité. Il était quand même, il croyait qu'il partageait le même évangile avec Philémon Vincent. C'est juste que des faiblesses à ses convictions vis-à-vis de la Bible, là, ça lui tentait pas de travailler avec ça. Alors, les faux prophètes qui s'y étaient infiltrés, dont Philémon Vincent, on a vu le cas spécifiquement de Philémon Vincent, on n'a pas vraiment vu d'autres, mais Philémon Vincent n'était pas le seul qui enseignait ce genre de choses-là, n'étaient pas confrontés. Et on l'avait souligné aussi à un moment donné, merci justement, parce que c'est vous qui en avez fait la première remarque, que ça serait bien de le souligner. Quand vous l'avez fait, ça m'a rappelé, oui, il faut le souligner. Que ce soit par naïveté, ce n'était pas tous les pasteurs qui ne l'ont pas confronté ce problème, ce n'était pas parce que c'était parfois par simple naïveté ou par ignorance, mais malheureusement aussi parfois plus gravement, c'était par manque de conviction personnelle quant aux vérités essentielles de l'Évangile. Il y en a qui connaissaient la différence avec ce que Philémon Vincent enseignait, tout ça, mais pour qui ces différences-là n'étaient pas vraiment importantes. Et donc là, c'est un syncrétisme inclusif de fond que certains avaient. Bon, moi, je ne fais pas nécessairement, je connais pas assez les gens à ce moment-là, les pasteurs en question, pour voir lesquels c'était plus par naïveté que par un syncrétisme inclusif de fond. Mais c'est bon quand même de souligner qu'il y avait différents degrés de raisons pourquoi les problèmes de fond n'ont pas été confrontés. Donc, on va pas revenir là-dessus, c'était simplement pour le souligner parce qu'on parle d'Arthur Blocher. Mais Arthur Blocher, le 30 novembre 1929, là, il quitte ce monde et gloire à Dieu que de tout ce qu'on peut savoir là, sa profession de foi était bien crédible et tout ça, et donc on se réjouit de ce qu'il est allé vers son sauveur. Cependant, l'Église là, qui est en pleine croissance, en plein essor, ne s'était pas préparée pour ça parce que c'est un décès assez subi là, c'était subitement que ça s'est passé. Alors qui va continuer l'œuvre? Et c'est là que on se gratte un peu la tête. Mais comme j'ai dit, ce que son père, en vous refusant de vraiment se trancher sur nombre de questions, là, devant ce décès subi soudain d'Arthur Blocher, bon, son père n'est pas vraiment intéressé à revenir pour se confiner encore dans une église. Il veut continuer son ministère d'évangéliste avec l'Institut biblique de Nogent. Il n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre qui est déjà. Madeleine était déjà impliquée dans beaucoup de choses, en termes de soutien, etc. Alors là, l'Église s'est dit, mais Regarde, c'est elle qui gère beaucoup de choses. T'sais, elle soutenait déjà en organisation. Et donc, ils l'ont choisie comme première femme pasteur. Je dis regrettablement, elle est devenue la première parce que c'est une question de point de vue biblique. Donc, on va y revenir là-dessus. Pas à fond, parce qu'on pourrait prendre une heure au complet pour voir tout ça, mais assez pour établir la chose, selon nous. Mais on va tous répondre à Dieu un jour pour ces choses-là. La première femme pasteur, protestante, évangélique, etc., nulle autre que dans une des, tu sais, la plus forte à ce moment-là des églises baptistes qui réclamaient ou qui, tu sais, étaient dans le courant des églises fondamentalistes. On va y revenir à ce terme-là, mais fondamentaliste, ben, peut-être je pourrais, tu sais, donner une définition déjà, mais ceux qui tenaient à croire l'Évangile tel que la Bible en parle, selon l'autorité de la parole de Dieu, d'une façon à croire, c'est les miracles surnaturels, la personne de Jésus-Christ, c'est bel et bien le Fils de Dieu, fait homme, donc en réaction contre le mouvement théologique libéral, c'était le fondamentalisme, mais le fondamentalisme était aussi, et c'est là qu'en France, le fondamentalisme n'a pas vraiment commencé à le pratiquer. Le fondamentalisme aux États-Unis, c'était avec le besoin non seulement de croire ces choses, mais de les mettre en pratique et de se séparer de ceux qui ne voulaient pas les mettre en pratique. Non seulement se séparer de ceux qui n'y croyaient pas, mais de ceux qui ne voulaient pas agir en conséquence. Donc, il y avait un séparatisme qui était biblique et qui était au fond. Maintenant, le fondamentalisme a vu des extrêmes, et comme dans tout mouvement. Et parfois, les dirigeants les plus extrêmes commencent à faire, tu sais, une mauvaise publicité pour les autres. Mais en gros, c'était ça. Et là, c'était les fondamentalistes aux États-Unis qui avaient commencé l'Église, qui avaient été motivés là, de soutenir l'œuvre de l'Institut biblique là, sous Rubin Saillant. L'église de Pasteur Saillant avec Arthur Blocher était dans toute le. Était derrière lui dans le commencement de l'Institut biblique, tout ça. Alors c'est pour ça que je dis que nul autre que dans le mouvement la plus forte à ce moment-là, là, en France, vient la première femme baptiste. Et là, dans l'article ici qui est en ligne, il y avait quelques points là que j'ai pas pu vérifier, ils ont pas de source. Donc je cite simplement cette source-là. Arthur Blocher, pasteur de l'Église baptiste du Tabernacle à Paris, étudie la question du ministère de la femme et conclut que la Bible lui permet un ministère public. Donc ça, moi-même, j'ai pas pu vérifier en arrière-plan de tout ça. Mais si c'était le cas, donc Arthur Blocher, lui-même dans cette direction qu'il prenait, ouvrait le chemin à cela, et donc c'est pas surprenant qu'à son décès, pas qu'il planifiait mourir, mais sans cette préparation-là, dans cette direction-là, probablement que l'Église parce que c'était vraiment avant-gardiste, entre guillemets, et je ne dis pas ça dans le bon sens du terme. Un autre point, bien que son Église la soutienne pleinement durant les 23 années de son pastorat, bien sûr, l'Église avait voté pour cela et elle continue à le soutenir comme pasteur. Madeleine doit faire face à l'opposition de la part des traditionnalistes en France. Donc, beaucoup d'Églises ne sont pas prêtes à ça et je dirais gloire à Dieu pour ça parce qu'il n'aurait jamais dû l'être. On va le voir pourquoi plus tard. Il y a encore à ce moment-là beaucoup qui sont traditionnalistes, entre guillemets, à ce niveau-là. Même son père, alors Rubin Saillant, son propre père et fondateur du Tabernacle, tout en reconnaissant son ministère, lui refuse le titre de pasteur. Donc, Fat aussi, l'historien Fat mentionne aussi cela, là, que c'est un. Tu sais, il avait de la misère à reconnaître là, sa fille comme pasteur. Donc, ça semble, au moins ce point-là semble corroboré avec d'autres historiens. Elle écrit un livre là, en 1961 pour défendre son ouverture là, de direction à l'Église aux femmes, libérée pour Par Christ pour servir. Donc là, le texte est là. Ceux qui veulent le lire directement, c'est bien de pouvoir savoir ce que les gens disent directement. Ceux qui veulent simplement un résumé, il y a cela. Donc je ne l'ai pas lu encore et je ne sais pas si je vais le lire au complet, mais je n'ai pas encore eu le temps vraiment pour le regarder plus que ça. Mais j'en ai quand même fait un survol. Et c'est certain qu'elle cite beaucoup d'exemples de femmes, que plusieurs étaient dans le mouvement charismatique. Donc à ce niveau-là, c'est certain que ça va de pair, le mouvement charismatique qui s'en permet des largesses avec l'interprétation de la Bible. Assez problématique parce qu'en bout de ligne, c'est un faux évangile, parce qu'ils enseignent qu'on peut perdre notre salut. Donc ça devient, qu'est-ce qui s'est passé là?
Ça doit être de mon côté.
Ah, ok. C'est beau. C'est juste pour que aussi l'enregistrement puisse le garder. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, commencer à citer un exemple de femme dans le ministère du mouvement charismatique, ça ne serait pas un plus du tout à ce niveau-là. Ça c'est comme un symptôme de la direction que ça prend. Parce qu'à ce niveau-là, c'est au niveau, vu que justement, elle avait des convictions assez fortes, hein, quand même, pour être dans l'église de pasteur, dans la suite du pasteur Rubin Saillant. C'est certain qu'elle n'est pas arrivée là avec des doctrines à la Philémon Vincent, là. Donc, mais c'est au niveau de l'interprétation que là, de fil en aiguille, on réinterprète et on ouvre le chemin et on lui donne beaucoup d'exemples. De femmes dans le ministère et d'exemples bibliques de femmes, mais jamais de pasteurs. Il y a beaucoup d'exemples, mais juste pour donc là, pour faire une. T'sais, elle cite bon, dans l'Ancien Testament, toutes les femmes. Oui, il y a eu des femmes prophétesses. Même dans le nouveau, donc c'est pas sur ce point-là. Dieu, mais même quand on considère ça, la prophétesse dans Juges, elle donnait la direction que Dieu voulait qu'elle donne, mais ensuite c'était pas elle. Elle voulait que ça soit un homme là qui prend le devant. Donc même là, la manière d'être prophétesse et les prophétesses. Et n'en prenant pas large dans ce sens-là. Fait que les exemples à ce niveau-là, oui, c'est certainement que Dieu a dû utiliser des femmes en tant que prophétesses, de donner la révélation biblique ou des prophéties, etc. Mais là, c'est au niveau de l'interprétation que là, elle va commencer à. Elle cite Priscille qui enseignait Apollos, les femmes qui ont parlé en acte 2, bon, ce n'est pas spécifiquement dit, mais les quatre filles de Philippe qui, ça, il n'y a pas de problème à ça, c'est vrai, les filles de Philippe étaient des prophétesses. Les femmes que Dieu a utilisées pour être les premières à annoncer la résurrection, les femmes chrétiennes qui puissent gagner à Christ son mari, incroyant, certainement. Mais ça prouve pas, c'est comme ça tourne autour du pot. Parce que certainement que Dieu veut que les femmes soient engagées à servir et rachètent le temps, puis soient impliquées autant que les hommes, mais pas dans les mêmes rôles. Et c'est là que la différence se fait. Fait que
Mais
citer les exemples d'implication des femmes, ça c'est comme un argument qui n'en est pas vraiment une. Oui.
j'ai tout le temps entendu parler que au niveau des Actes, c'est pas un livre qu'on peut sortir une doctrine, c'est un livre d'histoire. Les doctrines sont dans les épîtres, puis tout ça, mais le livre des Actes, c'est que Luc a rapporté ce qui se produisait dans l'Église à ce moment-là. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas sortir une doctrine de ce livre d'histoire-là, parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans le livre des Actes qui n'étaient pas nécessairement en accord avec ce que Dieu avait
Oui.
donné comme.
Et c'est bien de le signaler. Maintenant, peut-être apportons une nuance là à ce que vous dites,
Oui.
parce que c'est certain que les pratiques de ce qui s'est passé dans les actes sous la direction du Saint-Esprit ne contredisent pas les doctrines.
Oui.
Maintenant, c'est important quand même de le voir, surtout par rapport à l'aspect transitionnel que les actes nous montrent, l'établissement des choses. Donc, c'est pour ça que, par exemple, pour le baptême du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que c'est venu par l'imposition des mains dans Acte 8? À ce
Oui.
niveau-là, c'est pas que ça contredit la doctrine, c'est que ça, c'est un élément d'établissement que la
Oui.
doctrine établit dans le reste des épîtres. Donc, ce que vous dites, il faut le garder en tête, et surtout, ne pas, comme vous dites, sortir de doctrine à partir des actes seulement, parce que c'est là qu'il y aura un problème. Mais quand on pense à ça, à l'application de ce principe-là, ici, au pastorat féminin, on ne voit pas de pasteur de femme
Non,
dans les
non,
actes.
non.
Mais comme vous dites, si on l'aurait vu, bah, probablement, premièrement, ça aurait été pas. Certains vont dire, wow, là, est-ce que c'est Monsieur Raymond le Saint-Esprit qui parle? Non, mais selon l'autorité de la Bible, je parle. Avec les Épîtres, c'est pour ça qu'on ne le voit pas non plus dans les Actes. Mais on voit des prophétesses dans les Actes et on voit que les prophéties, les dons, certainement, n'étaient pas réservés aux hommes. Mais il y avait aussi quand même certains paramètres qui restent et qui demeurent. Donc, c'est bon que vous m'avez que vous souligniez ce point-là, que les actes ne sont pas la place là à en tirer des doctrines, mais c'est pour observer un peu comment se sont développées les premières choses. Et ce développement-là, en accord donc avec les doctrines, là, on peut en tirer des conclusions importantes. Donc là, elle mentionne donc les Quakers. Les Quakers, ce n'est pas encore là une source d'exemple vraiment fiable, parce que les tendances charismatiques, là, non fondées bibliquement, donc en tirer les exemples de femmes, ce n'est pas la meilleure source de choses. Ah oui, j'étais remonté sans le savoir. Donc, on peut regarder tout ça, mais je préfère simplement revenir avec quelques balises de base avec la parole de Dieu. 1 Timothée 3. Ouais, j'ai oublié de préparer celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc, 1 Timothée 3, c'est peu importe l'interprétation qu'on y donne, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, et dans Acte 20, on voit que évêque qui devait paître le troupeau et ils étaient anciens, appelés aussi anciens, on voit que les trois termes réfèrent à la même personne qui était responsable de diriger l'Église, parfois appelé évêque au sens de surveillant. Qui devait être le pasteur qui paie le troupeau et ancien de la maturité qu'il fallait qu'il ait pour même commencer. Il faut donc, il y a des critères, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Maintenant, c'est dur de dire, ah, dans 1 Corinthiens 7, par exemple, Dieu, parfois, il est très explicite que toutefois, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas. Là, il est très explicite. On va dans les deux sens. On va dans les deux sens. On va dans les deux sens. Maintenant, dans 1 Timothée 3, non seulement le pasteur, mais ensuite, il mentionne les diacres. Même chose, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de dupliciter, des excès de vin, conservant le mystère de la foi, etc., qu'on les éprouve d'abord et qu'ils s'exercent ensuite leur ministère, ils sont sans reproche. Les femmes, là, il mentionne ici, les diacres doivent être maris d'une seule femme. Donc, les femmes doivent être honnêtes, non bénissantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, si, et je sais qu'il y a des églises qui croient qu'il peut y avoir des femmes diacres, donc des diaconesses. Et certainement, il y aurait de quoi argumenter à ce niveau-là. Il dit les femmes. Est-ce que les femmes de diacre doivent être telle chose? C'est certain qu'il ne mentionne pas les femmes de pasteur, de critères de femmes de pasteur. Donc là, ce serait drôle que là, soudainement, il parle les femmes de diacre doivent être telle chose pour que les hommes puissent être des diacres. Donc, ça se peut. Mais tout ça pour dire spécifiquement si. Ensuite, les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Donc, pour être diacre, c'est certain que ça prend être un homme. Donc, même sur ce point qui est un peu moins clair, s'il peut y avoir des diaconesses officielles ou pas, c'est certain que l'évêque, ce n'est pas du tout mentionné et il n'y a pas d'exemple du tout. Dans les critères même que nous donne 1 Timothée 3, 1 à 7. Maintenant, même le contexte d'1 Timothée 3, il vient non seulement de dire que l'évêque doit être mari d'une seule femme, mais il vient de dire là, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, donc que l'attention soit portée sur l'extérieur. Ce n'est pas dire qu'on ne doit pas s'habiller proprement et d'une façon appropriée à l'événement, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu, et que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, et elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Maintenant, ce n'est pas dit d'une façon absolue parce qu'en Corinthiens 7, Paul encourage lui-même, à cause des temps difficiles que l'Église allait connaître, oui, qui avait déjà peut-être commencé, de considérer le célibat. Donc, c'est certain que ce n'est pas en devenant mère au sens catholique là, que c'est la manière d'être sauvée, là, que tu gagnes ton ciel par le nombre d'enfants que tu as. Comme ils se croyaient au Québec fermement, au point de, t'sais, d'avoir des douzaines d'enfants par famille, là, c'était la norme. Mais c'est pas du tout dans ce sens-là. C'était simplement de souligner son rôle et plus familial. Ça veut pas dire que c'était exclusif, qu'il fallait absolument cela. 1 Corinthiens 7 donne un contexte à cela. Mais ça souligne l'importance et le rôle. Maintenant, on voit ici dans 1 Timothée 2, 9 à 15, l'interdiction à la femme de prendre d'autorité dans l'Église, d'enseigner. Donc, c'est de ne pas parler, c'est pas au sens de ne pas. Tu sais, tu rentres dans l'Église et là, c'est bouche cousue du début, dès que tu mets tes pieds dans l'Église et jusqu'à ce que tu en sors. Non, c'est le prendre hors contexte, mais c'est de ne pas parler au sens de prendre l'autorité et d'enseigner, comme il clarifie là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité. Donc, ça explique ici. L'entière soumission, donc ce n'est pas du tout au silence absolu et formel là qu'il parle. Son rôle important de soutien familial est souligné. Et ça, il le dit aussi dans Tite. Et ça vaut la peine de voir ça parce que là, les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Je devrais peut-être souligner le début. C'est pas juste la doctrine qui est importante, c'est la pratique. Et une pratique qui est conforme à la saine doctrine. Donc, de mettre en application l'esprit de cette saine doctrine dans la manière de vivre. Et donc, pour les vieillards, ça sera une chose. Et pour les femmes âgées, elles doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc voilà l'enseignement des femmes aux femmes, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Encore, c'est très important. Dieu souligne l'importance de leur rôle de soutien familial. C'est occupé aux soins domestiques. C'est pas comme, c'est pas important. Non, c'est très important. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut de l'ordre. Le rôle du mari étant principalement celui qui doit gagner le pain, travailler sur la sueur de son front, pourvoir la protection et le soutien Ça ne veut pas dire que le mari ne peut pas laver la vaisselle, mais la tâche principale des soins domestiques, c'est donner aux femmes de s'occuper des soins domestiques, des enfants, etc. C'est pas que c'est pas important, c'est très important afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, et exhorte de même les jeunes gens à être modérés, tout montrant à tout-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, etc. Encore là, le but, c'est que le Satan, là, n'ait pas de choses à pouvoir contredire, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Puis il conclut tout le chapitre en disant, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Donc, encore là, titre 2, il souligne le rôle principal, là, ce sera de soutien et de soutien familial et d'enseignement aux femmes, etc. Donc, 1 Pierre 3, le même genre de choses, c'est pas juste l'apôtre Paul. Femmes, soyez même soumises à vos maris. Encore là, si on défait le fait que peut-être à ce moment-là, on parle d'évêques masculins, ils étaient, tu sais, ça aurait pu être féminin. Ben encore là, est-ce que la femme aujourd'hui, la femme libérée, ça veut dire qu'elle est libérée non seulement des passages qui semblaient la restreindre dans son autorité dans l'Église, elle est libérée de cela, elle est libérée aussi de devoir être soumise à son mari, de quoi qu'on parle de libération. Mais autant que Dieu a un ordre dans le foyer, autant qu'il a un ordre aussi de rôle dans l'Église. Et le fait que Dieu a fait que le mari doit diriger et que la femme doit soutenir et être soumise, ce n'est, on va y arriver là. C'est pas une question de différence de valeur dans la nature de nos personnes. Mais encore là, l'aspect de soutien, d'être réservé et soumise, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. On sait que physiquement, et en fin de compte, la comité olympique sera juste à ce niveau-là. Finalement, le monde se réveille un peu. Bon, c'est pas certain, c'est certain, on comprend que c'est pas tout le monde qui va l'accepter, mais ça commence au moins à ce que ça revenir de son bon sens, que le monde reconnaisse que physiologiquement, c'est indéniable qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Et donc, la manière que Dieu nous a créés, et Dieu ne dit pas comme avec une personne là, faible et peu importante, non, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, ils sont au même point en termes d'héritage, d'être cohéritier avec Christ, là, ils sont au même niveau, là. C'est aucune différence, là. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Fait que si ça prouve pas que c'est pas important à Dieu, oh là là, Dieu dit, hey, traite bien ta femme, là, autrement, je t'écoute plus, hein. Il dit pas ça à la femme. Sois bien soumise, autrement, je t'écoute plus. Mais il souligne ça pour l'homme. Donc, certainement, Dieu souligne l'importance de ce qu'on va souligner, là, que l'homme ne doit pas prendre son autorité pour être un roi chez lui, un pacha, mais de servir. Donc, un Pierre 3,7 aussi dans le même sens, de souligner les rôles distincts. Okay? Et là, on va revenir à 1 Timothée 2 parce que la raison pour laquelle Paul dit cela, c'est que il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est la manière que Dieu a créé les choses. Oui, il y a un aspect aussi que c'est, ça découle aussi de la chute. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et Dieu a donné à la femme donc l'opportunité, étant celle qui a introduit l'homme qui était clairement, tu sais, responsable et l'a simplement désobéi, la femme qui était l'instrument par laquelle Satan a fait chuter l'humanité, mais par la séduction. Dieu donne dès le départ à la femme l'occasion, ce sera aussi à travers la lignée de la femme que viendra le salut. Et ce sera en l'accouchant, donc, de cette lignée-là. Donc, c'est un peu. Dieu a fait que oui, il souligne aussi qu'il y a une part qui était à cause de la chute, mais en même temps, Il souligne verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ben, ça réfère aussi à cette promesse-là que de la lignée de la femme viendra le sauveur, etc. Donc, c'est ce rôle d'être celle qui, par qui la vie continuera, là, de celle qui va mettre au monde la génération future, jusqu'à, en fin de compte, le sauveur lui-même. Ben, c'est pas rien. Mais revenons à l'aspect que c'était même avant la chute, il y avait un aspect fondamental, la manière que, et l'ordre que, dans laquelle Dieu. L'ordre avec laquelle Dieu a choisi de créer l'humanité. L'homme, d'abord, ensuite la femme. Et là, on va souligner quelque chose de bien important, parce que ceux qui ont de la misère avec ça, là, et sûr, je comprends, il y en a beaucoup qui ont de misère avec ça, parce que, quoi, on vit dans un temps où ce que là, l'égalité de la femme, tout ça, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme, on doit simplement unisexe, tu sais, on est simplement humain. Ça ne respecte pas la manière que Dieu a créé les choses. Ça ne respecte pas non plus le principe qui Dieu est en lui-même. Et ça, c'est ce qu'on veut souligner. Parce que, on va y revenir, mais, OK, on va faire une petite pause. On va relire 1 Corinthiens 14. On va pas faire la pause, on va sauter et revenir par ensuite. Ces passages ne mettent pas en doute l'égalité de la femme. Pas plus que la soumission du Fils au Père et ou l'effacement du Saint-Esprit par rapport au Fils. Ça, il faut absolument qu'on souligne ça. Est-ce qu'on est en train de dire que parce que le Fils devait être soumis au Père, il était inférieur, il était, tu sais, pas l'égal du Père. Il était de la même nature que le Père. Il y a un ordre. Et là, je sais que là, ça nous bousille le cervelle. Mais dans Jean 5, 24, Jean 5, 26, pardon. Quand je cite ce passage, je fais souvent l'erreur de dire 24. Là, il va falloir que ça reste là. Jean 5, 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc, une égalité en nature totale. Personne n'a jamais, Jésus n'a jamais été créé. Il a la vie en lui-même. Mais c'est là que ça bousille notre capacité mentale, parce que Dieu a donné, le Père a donné au Fils d'avoir cela. Donc, on parle d'un don éternel, parce qu'il a la vie en lui-même. Comment est-ce que ça se peut? C'est certain que ça nous dépasse. On ne pourra jamais, 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 jamais comprendre cet aspect atemporel. C'est traduit par un passé. Il a donné, mais comment est-ce qu'on peut traduire en langue humaine limitée ces réalités éternelles? Mais le point, c'est ceci. Le Père a donné. Le Fils vient du Père, éternellement parlant. Et donc, c'est pour ça que c'est le Fils qui est soumis au Père. Et donc, dans la nature même de qui Dieu est, il y a un ordre, il y a une structure d'autorité et il y a une égalité de nature. Et Dieu, quand il a choisi de créer l'humanité, il a créé dans la même optique l'homme et la femme, tous les deux à l'image de Dieu, égal, dans l'importance, dans leur valeur, dans leur nature, tout autant important l'un que l'autre à Dieu. Mais des rôles différents et à une structure d'autorité. Donc, si on a un problème avec cela au niveau de l'homme, eh ben, notre théologie vis-à-vis de qui Dieu est, notre théologie proprement dit, doit en prendre un coup aussi. Et donc, j'ai pas étudié qu'est-ce que les féministes, entre guillemets, chrétiens disent vis-à-vis de qui Dieu est, puis qu'est-ce que ça fait vis-à-vis de la Trinité, cet aspect d'ordre en soi-même, là, de structure d'autorité dans la personne même de la Trinité, de Dieu le Père, Dieu le Fils. Et là, je n'ai même pas souligné le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, on parle d'effacement dans Jean 16, 13. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qui vient de moi. Là, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Si ça ne parle pas d'effacement, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait parler d'effacement. Donc, à ce niveau-là, le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est pas une force. Et il est de la même nature que Dieu le Père, que Dieu le Fils. Mais donc, on voit ça clairement dans la Trinité. Pourquoi est-ce qu'on a un problème de voir ça au niveau de l'Église, qui a différents rôles, au niveau de la foyer, ou au niveau de, en général, de l'homme et de la femme. Pourquoi est-ce qu'on voit qu'il y a un problème de la même manière que Dieu a créé les choses? Donc, ces passages ne mettent pas en doute du tout l'égalité de la femme. Donc là, on parle de rôle et de responsabilités différentes, pas de nature, de valeur ou d'importance de la personne. Genèse 1, 27, l'homme et la femme sont tous les deux autant créés à l'image de Dieu. Donc, on doit bien établir ces choses-là. On va revenir à 1 Corinthiens 14, 32 à 38, qui répète un peu la même chose que Timothée. Donc, dans le contexte de parler des dons surnaturels, puis de l'ordre dans l'Église, puis de. Là encore, 1 Corinthiens était écrit dans le contexte où la Bible n'était pas encore complète. Il y avait encore les dons de prophétie, il y avait le don de parler en langue, les dons de guérison, etc. Dans 1 Corinthiens 14, il donne les directives pour que ça se fasse d'une façon bienséante, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Hein. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, c'est certain que quelqu'un qui prophétise, il va pas commencer à se chicaner avec un autre prophète parce qu'il n'a pas eu son tour de parler, etc. Cet esprit-là, c'est clairement pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Donc là, est-ce qu'il n'y avait pas de prophétesse? Oui, mais ces prophétesses-là, en donnant des prophéties, ce n'était pas nécessairement un enseignement dans les réunions d'église. On peut pas dire que s'il y avait des prophétesses, ça veut dire qu'ils devaient donner des prophéties durant les réunions. Ça serait une fausse logique là, de dire que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, Dieu a donné des prophétesses, les quatre filles de Philippe dans Actes, certainement l'été. Mais l'instruction que dans les réunions d'église, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent sur leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc, l'aspect de commencer à demander ouvertement, publiquement, et de, tu sais, commencer à avoir une influence sur l'ordre de la réunion, non, c'est pas bienséant. Hein. Et là, il continue parce qu'il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce que à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc Paul dit, c'est pas simplement ma suggestion que je fais, comme dans 1 Corinthiens 7, où ce qu'il s'est suggéré de considérer le célibat. Il dit, le Seigneur ne donne pas. Non, là, c'est un commandement du Seigneur. Ah, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, 1 Corinthiens 14, certainement, il va dans le même sens que 1 Timothée 2 et 1 Timothée 3, puis Tite, etc. Maintenant,
Donc, parce que
oui, pasteur
oui,
Bégin.
c'est drôle de voir, puis c'est ce que je vois dans beaucoup de chez beaucoup de chrétiens, la difficulté de comprendre que quand on est en Église, c'est qu'en tant que corps de Christ, on se présente devant Dieu, et là, Dieu a donné une manière de fonctionner et on doit la respecter. Et lorsqu'on est dans on n'est plus présent en tant que corps de Christ, en Église. Lorsqu'on tombe du niveau personnel, là, ça tombe plus du tout, pas nécessairement du tout de la même façon, mais c'est là qu'on peut rappeler que les filles de Philippe, ils prophétisaient, mais pas en Église. Ils étaient à l'extérieur de l'événement de l'adoration et du corps de Christ qui se présente devant Dieu en Église. Ça me fait penser un peu à. Voyons, le couple là, qui enseignait là,
Priscille et
Priscille et
Aquila.
Aquila.
Oui, c'est
Puis
ça.
là, pourtant, on voit que à de nombreuses reprises dans les Actes, lorsqu'il y a eu Apollos, et ainsi de suite, on voit tout le temps Priscille nommée avant Aquilas. Pourquoi? T'sais, puis on dirait qu'elle avait le flair de décoder, de retracer oh, des serviteurs de Christ. Mais c'est sûr qu'elle a dit son mot à des endroits, mais elle n'enseignait pas dans l'Église. Elle était à l'extérieur de l'événement qui était la rencontre avec le Seigneur en tant que corps de Christ au niveau de l'assemblée. Alors, c'est ça qu'il faut faire un peu la différence.
Oui,
Puis
oui,
beaucoup de chrétiens ont de la misère à comprendre qu'il y a un contexte. Ça me fait penser un peu lorsque les fils de Aaron, on se rapporte dans l'Ancien Testament avec le sanctuaire, tout ça, mais ils ont apporté de le feu étranger. Non,
oui.
non, Dieu n'avait pas dit ça de même, mais eux ont voulu faire ça à leur manière. Et Dieu a Puis il a décrété une sanction. Mais il était à ce moment-là en tant que rassemblement du peuple de Dieu devant Dieu. Alors, c'est deux contextes qu'il faut réaliser, là. Je ne dis pas que ça prend le. On accepte le désordre même à l'extérieur de l'Église, mais c'est que il y a une manière de fonctionner qu'il faut toujours dans le contexte.
Oui, exactement. Exactement. Et c'est ça justement qu'on doit se rappeler, c'est que Dieu ne dit pas que les femmes ne devraient pas avoir de conviction, puis ne devraient pas être discernantes.
Non, c'est ça.
Dieu veut que les femmes aussi usent de discernement, etc. Puis ça, pourquoi est-ce qu'on fait les choses qu'on fait? Simplement parce que c'est ce qu'on a toujours fait? Ou est-ce qu'on les fait parce qu'on les voit dans la Bible? Dieu veut que les femmes, tout autant que les hommes, aient des convictions bibliques sur les choses. Mais comme vous dites, il y a une place pour partager ces convictions-là. Et donc, certainement, on n'est pas en train de dire que les femmes n'ont plus à réfléchir. Et simplement, va donner le biberon au bébé, puis
Ouais.
réfléchir pour ça. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et donc, mais il y a une place, la soumission. Et vous l'avez dit si bien, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Donc, très bien, l'aspect de soumission dans la manière que Dieu veut que les choses sont faites. Et il est très clair. Il le dit, on les a lus dans les réunions d'église, dans l'ordre et la direction de l'église, des décisions que prennent l'église. C'est certain que l'église a été consultée, mais les apôtres l'avaient consultée pour le choix des diacres, tout ça. Mais quand les décisions se prennent au niveau de ceux qui dirigent, ben, Dieu a voulu que ce soit d'une certaine manière et on doit s'y soumettre parce que Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu veut que quand on se suive, on se soumette à son ordre. Donc, excellent. Et ça, on doit le souligner parce que. Et aussi, l'autre chose, c'est que ça semble que c'est mis de l'avant, libéré pour Christ pour servir, comme s'il ne pourrait pas servir sans pouvoir être pasteur directement, tout ça. Et c'est comme c'est mettre un argument, comment on dit ça là, faire un monsieur de paille là pour ensuite facilement.
Alors, pas un débat, là, mais ouais, faire un. Ouais, attendez une minute,
Ouais, je
là.
l'ai perdu.
Un débat, une discussion, un élément de. Pas de controverse, mais.
C'est comme
De contestation.
mal citer quelque chose pour ensuite
Oui, OK.
le faire, mais qui d'entre nous qui croyons ce que la Bible dit par rapport à il y en a nos rôles respectifs, que ça veut dire que la femme ne peut pas servir? Non, mais eux, ils insinuent que c'est à moins qu'ils peuvent être tout ce que l'homme peut être, ils peuvent pas servir. Alors, ils sont libérés par Christ pour servir. C'est le titre de son livre. Donc, on veut vraiment souligner que Dieu veut que tous soient engagés, tous soient impliqués, que les femmes autant que les hommes servent. Et Dieu a donné des opportunités. On a mentionné le fait que Dieu lui-même souligne l'importance de la famille et des soins domestiques. Il ne minimise pas cela. Dans le ministère de Christ, quand on prend le temps de lire, hein, il mentionne, oui, il avait 12 disciples, mais il y avait des femmes aussi qui accompagnaient, puis qui servaient, puis qui, etc. Mais il souligne ça. Mais est-ce qu'il le souligne assez? Il le souligne assez pour qu'on le voit, mais il le fait effacer un petit peu. Mais est-ce qu'il y a un problème à faire un travail effacé en coulisses? Non, le Saint-Esprit, c'est son œuvre. Celui qui s'occupe du son puis des lumières en arrière, si c'est bien fait, on ne devinera jamais qu'il existe. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai travaillé à l'école biblique, j'avais travaillé un certain temps pour le système de son, tout ça. Puis celui qui dirigeait disait une chose. Notre travail, c'est de ne pas être remarqué. Si les gens remarquent le système de son, c'est que c'est mal fait. Le système de son, ça devrait être qu'on ne le remarque même pas. On entend ce que la personne dit, puis c'est tout, puis on ne pense même pas à ça. Il dit, fait que ça, c'est un travail effacé. si on réussit bien notre rôle, personne n'a remarqué que la lumière est parfaite, là, tu sais, puis le son est parfait. On remarque même pas. Parce que là, maintenant, on peut se concentrer sur le but de ce qui est dit, puis ce qu'on devrait voir, etc. Fait que c'est la même chose. Est-ce que c'est un problème que Dieu a donné à certains de faire des travaux plus en coulisses, de soutien? C'est certain que ma femme fait beaucoup de choses que personne devinerait. Mais est-ce que c'est un problème? Les gens voient plus moi un peu devant, tu sais, mais en fin de compte, moi, je serais là. Sans ma femme, ça serait un fiasco. C'est l'ordre que Dieu a donné de. C'est l'aspect de service, peut-être, c'est un peu plus effacé, en arrière-plan, mais c'est pas un manque de service et d'opportunité de service. On voit à travers la Bible, oui, qu'on a mentionné, les prophétesses, on voit l'aspect de servir les femmes, Priscille et Aquila, comme tu dis, les femmes âgées qui enseignent aux jeunes, etc., le ministère envers les enfants, etc., d'enseignement, puis de clubs, etc. Il y a beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup de missionnaires qui sont partis. Les femmes peuvent témoigner, peuvent distribuer des gens et romains, donner des traités, puis de partager leurs témoignages. Il y a beaucoup, beaucoup. Il y a des femmes qui s'en vont en mission célibataire et c'est pas un problème. Ils sont là en soutien une fois qu'il y a une église de commencer, en soutien au leadership masculin, bibliquement. Mais c'est pas les opportunités qui ne manquent pas. C'est simplement, il faut respecter l'ordre et les rôles de chacun. Maintenant, je veux mentionner que ces opportunités-là de servir sont multiples et importantes, mais pour ce qui est de la direction et de l'autorité, ce sera aux hommes que Dieu demandera des comptes. Ça ne devrait pas nous rendre la tête grosse. Ça devrait plutôt nous rendre sobres. On va devoir avoir à répondre. T'sais, pas que les femmes n'auront pas à répondre pour leur rôle. On aura chacun à répondre pour nos rôles. Mais tout ça pour dire, il ne faut ni abdiquer de son autorité, ni s'en servir pour abuser. Okay, comme on l'a souligné tout à l'heure en lisant Tite 2,15, dit ces choses avec une pleine autorité. Okay? Dieu ne veut pas que on abdique par une fausse sens de humilité. Ça ne veut pas dire qu'on doit aussi être, tu sais, quelqu'un qui dirige au sens de moi je connais tout, puis l'humilité, je crache dessus parce que c'est moi le boss ici. Non, c'est pas non plus avec cette attitude-là. Parce qu'on ne doit pas non plus se servir de l'autorité pour l'abuser. Comme dit Marc 10, hein, et Christ souligne d'une façon très importante que dans ce monde, les gens, ils dirigent comment? Ils dirigent en faire valoir leur autorité, hein, et leur grandeur. C'est quel Marc 10, quoi? 10, 42, c'est ça. Okay, il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, que les grands les dominent. Il n'en est pas même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Est-ce que ça veut dire que Christ lui-même, quand il agissait comme serviteur, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas accepté l'adoration? Est-ce qu'il s'attendait à être. Est-ce qu'il a permis que les gens ne, tu sais, ne soient pas respectueux envers son autorité? Non, il a enseigné, tu sais, il a accepté quand les gens le reconnaissaient pour le Fils de Dieu et qu'il lui donnait une pleine adoration, il l'a accepté. Mais lui-même est venu pour servir. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser de titre. Non pas qu'on doit, comme il dit dans, comment ça s'appelle, dans Matthieu 23, hein, que ce ne soit pas les titres, hein, qu'un directeur, tout ça, ce ne soit pas le titre là, qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les titres de respect. Pour ça, dans nos milieux, on utilise souvent un pasteur, simplement par respect. Mais, c'est grandiose. Donc, faisons attention à ne pas errer du côté des titres. parce que on veut être, c'est dirigé en servant. Donc, j'ai dit ici dans les notes, il faut utiliser l'autorité, son autorité, responsablement et sensiblement. C'est pas, mais avec sagesse. Et je sais au niveau personnel que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. Et on l'a souligné dans 1 Pierre 3, 7. Hein. Faites-le. Utilisez votre autorité avec grande sagesse. Hein. Faites attention à la manière dont vous vous en servez. Là. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Hein, soyez sages. La manière de les traiter, honorez-les. Hein. Abaissez les pas, honorez-les. Ça, c'est. Fait que, on parle de ne pas abdiquer de notre responsabilité, mais non plus de ne pas s'en servir pour servir. Donc, c'est très important. Parce que si on ouvre la porte à cela, c'est une autre sorte d'interprétation, une autre sorte d'herméneutique qu'on va commencer à utiliser. Si on utilise une autre sorte d'herméneutique vis-à-vis des femmes pasteurs, bah là, ça commence à, tu sais, tous les autres sujets de la Bible commencent à un moment donné, le fil d'une mauvaise interprétation et d'une mauvaise herméneutique, d'une mauvaise approche dans la manière d'interpréter la Bible, ben ça va commencer à se déteindre aussi dans la théologie, tout ça. Et c'est ce qu'on voit dans ces milieux-là où ce que le féminisme biblique, entre guillemets, là, le féminisme chrétien, ben, se fait, là, c'est l'interprétation. D'ailleurs, ça m'introduit à ceci. Pour la semaine prochaine, on va aborder le sujet en termes d'exemple. Ça va réunir plusieurs choses qu'on a vues dans les dernières semaines. Donc là, on va pas le voir. Je vais juste mouiller l'appétit. Et si vous avez l'occasion de lire, parce que je suis tombé sur un article de Audrey Torini, pasteur. Donc là, dans cet article-là, de Servir ensemble, elle donne simplement son témoignage, comment elle est devenue pasteur, etc. Maintenant, c'est plutôt par rapport à l'autre. C'est un article dans l'association, sur le site de l'association évangélique d'Église baptiste. On va y revenir à cette association et son historique. Mais je mentionne l'article parce que c'est écrit par justement Audrey. Et la violence dans la Bible, c'est un texte qui nous dérange. Elle aborde un sujet difficile, hein, tous les massacres que Dieu a commandés. Comment les comprendre? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui les a commandés comme ça, etc. Selon elle, et on voit, justement, on aborde cet article-là dans le contexte de justement voir le mouvement des pasteurs baptistes de femmes et bien pasteurs évangéliques. Où est-ce que ça mène? Bon. Ce genre d'article-là, ça aurait pu être écrit par un homme et j'en aurais les mêmes critiques à la fin. Donc, ce n'est pas le fait que c'est une femme qui l'a écrit qui fait qu'on va la critiquer différemment. Pas du tout. Et ça, je tiens à le mentionner clairement, là, ça n'a pas rapport. Mais en même temps, ça donne une illustration quel genre d'herméneutique, ça ouvre à quel genre d'herméneutique. Donc, je mouille l'appétit. Bon, je dis ça un petit peu comme ça, mais en même temps, c'est des choses importantes à voir parce que ça fait face à qu'est-ce que la Bible dit sur le côté de cette violence-là, entre guillemets, qui, tu sais, est directe. Je le dirais comme ça. On va aborder ce sujet-là la semaine prochaine. Si vous avez l'occasion de lire avant, vous en retirez un peu plus parce que ça vous permettra de réfléchir à travers ce qu'on va en parler. Donc, très bien. On va conclure là-dessus pour cette semaine. Donc, c'est important de voir ça et ce que la Bible en dit et de faire attention à notre herméneutique, d'accepter et de se soumettre aux directives de Dieu en les comprenant bien. Je demande si vous voulez conclure avec un mot de prière.
Oui, pas de problème. On va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Béni sois-tu. Seigneur, encore une fois, on a appris des nouvelles choses aujourd'hui. On a eu l'occasion d'échanger. Et Seigneur, d'en apprendre toujours plus sur l'histoire de l'Église. Seigneur, on est vraiment impressionné de voir ta patience à travers ces différents courants, ces courants qui s'éloignent de ce que tu avais demandé, ces courants des fois qui, malgré le fait qu'ils pensent bien faire, détériore tes commandements, détériore, Seigneur grand Dieu, l'enseignement que tu nous as laissé. Et puis, aide-nous à comprendre, puis à rester aux aguets, parce que, m'a dit, comme Paul disait par rapport à l'Ancien Testament, ces choses-là nous sont laissées comme une instruction. Et moi, je considère ça comme une instruction pour que nous, en tant qu'assemblée actuelle, on puisse réaliser et voir ce que un petit peu de levain peut créer, Seigneur, dans le futur. Et Seigneur, aide-nous à pouvoir toujours rester fidèles à ta parole, le plus près possible, Seigneur, de ce que tu nous commandes de faire, mais qu'en toute chose, Seigneur, on puisse être trouvé fidèle jusqu'au bout. On t'aime, Seigneur grand Dieu, et c'est au nom de ton fils Jésus qu'on te le demande. Amen.
Amen. Amen. Ben, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.